Rosalie, ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Maxime Morin, Charles Manta et Émile Clouet.
Bon matin, Québec! Comment ça va, tout le monde? Écoutez, il est présentement 8h et puis on est sur les ondes de Chiz 94.3. Maxime Morin, votre animateur, avec Charles Manta et Émile Clouet. Comme le jingle le si bien dit, les gars, on a notre jingle!
Enfin,
je m'appelle pas le reste du CRTQ. Pourquoi ça compte ça?
Ben, j'ai ce rouleau complet.
Ouais, okay. Il reste combien de temps?
Il reste deux secondes.
C'est un petit moment de détente, en fait. C'est pour nous mettre en haleine. Hein?
Ah, OK. Côté météo, très belle journée aujourd'hui. Gros soleil sur Québec. Ça va faire du bien après la tempête d'hier. Là, il poudrait tout. C'était pas beau hier. Gros soleil aujourd'hui sur Québec. Ressenti moins 17. Demain, ça va être nuageux avec un maximum de moins 9 degrés. Et il fait présentement moins 11 degrés à Québec.
Oui, au niveau de la circulation, ça se passe vraiment bien. On est dans la vieille capitale. Ça paraît que la relâche est commencée. Seul petit accro est sur la capitale direction ouest. C'est au rouge, même rouge foncé là, aux alentours de l'autoroute Laurentien. Il y a une entrave, il y a une voie qui est fermée en direction ouest. Donc, sinon, pour le reste de la circulation, tout se passe très bien sur les routes.
Sinon, nouvelle, un camion est entré en collision avec plusieurs véhicules à l'angle de l'avenue Chauveau et du boulevard Saint-Jacques vers 20h50. Le Ford F-150 a brûlé un feu rouge pour ensuite percuter plusieurs véhicules. Les occupants du camion ont pris la fuite à pied. Le SPVQ a confirmé que le camion était volé. Selon une spécialiste, les écrans devraient être bannis des écoles. Elle a avoué qu'il avait du bon dans la technologie, mais que les fameuses tablettes ne sont pas un avantage. Elle a également affirmé que l'algorithme des réseaux sociaux est fait pour rendre les jeunes dépendants.
Deux secondes, Émile. Ça me fait penser aussi, cette nuit, il y a eu un accident, un camion...
À Deschambault, c'est bien ça?
Oui, ce camion, c'est 53 pieds,
exact.
Ouais, 53 pieds, avec 10 véhicules impliqués. Ça a pris personne de blessé. Heureusement.
Ils ont fermé la 40.
Ils ont fermé la 40, ouais, puis jusqu'à ce matin, puis ça a rouvert vers comme 4-5 heures du matin. Donc, gros accident cette nuit.
Donc, Vladimir Poutine s'isolerait de plus en plus s'il vivrait avec sa maîtresse dans un palais privé au nord de la Russie, aux abords du lac Valdaï. Le président russe s'impatiente de plus en plus. Il demande à ses troupes la victoire absolument en Ukraine. Le tricolore s'est incliné 3-2 hier dans la ville des Anges au Crypto.com Arena. Les Kings de Los Angeles sont venus à bout des hommes de Martin Saint-Louis alors que les Canadiens avaient pris les devants grâce à Josh Anderson. Denis Gourianov a plus tard inscrit son premier but dans l'uniforme du CH. Le prochain match des Glorieux se jouera à Anaheim ce soir à 22h.
Tout un lancé de Gourianov, hein? On va se dire.
Tout un laser.
Un vrai laser.
Je pense qu'il y avait on a enregistré un de ses tirs donné à 123 km/h. Ouais, on se rappelle.
Je crois que c'est le tir le plus rapide de l'histoire de la Ligue nationale.
Ah ouais, parce que le snapshot de Zdeno Chara avait fait 108 000
à l'heure.
108 000 à l'heure au match des étoiles compté, puis Gourianov, c'était 123. C'est incroyable, tout simplement. Ouais. Écoutez, on reste dans le hockey. Date limite des transactions, les boys, aujourd'hui, en ce 3 mars, vendredi 3 mars, les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey ont jusqu'à 4 heures, heure de l'Est, pour faire des transactions. Donc, Kent Hughes, s'il te plaît, réveille-toi et sur le téléphone, nous avons quelques joueurs à échanger.
Jusqu'à 9h30, il va nous écouter. puis après ça, il va commencer à faire les transactions.
Ah, OK. Bon, OK. Ben, si tu nous écoutes,
mais,
Kent...
Mais il me l'a dit, il m'a appelé à matin.
OK, bon, ben, OK. Kent, Drouin, Edmundson...
Savard, Hoffman.
Savard, Hoffman. Écoute, tout l'échange avec Dadonov que t'as fait cette semaine, incroyable. Continue comme ça. Continue comme ça. Il te reste, bon, je sais pas, 8 heures pour faire ça. Fait que, vas-y. Mais avant, écoute la longée avec... Les trois fantastiques.
Tu viens-tu de voler une idée à Véronique Cloutier en ce moment?
Ah, non, je n'avais pas pensé. Je pensais à notre groupe Facebook. ben, écoutez, je pense que le hockey, on est dû pour en parler ce matin parce que on parle de Gilles Courteau qui va retourner en commission d'enquête, en commission parlementaire, excuse.
Oui, donc on était tous surpris le 23 février dernier lorsque la commission parlementaire sur les initiations violentes sur le hockey prenait fin après seulement une seule journée. Le gouvernement caquiste avait décidé de mettre fin à cette commission d'enquête-là une journée après qu'elle ait commencé. Ils ont même refusé la demande du parti Québec solidaire parce que Québec solidaire voulait que cette commission-là se poursuive puisque, selon eux, on avait seulement trouvé la pointe de l'iceberg, on n'avait pas fait le tour de la question. Mais le gouvernement caquiste, dont la ministre des Sports, Isabelle Charest, avait décidé « Non, une journée, c'est assez. » Mais revirement de situation hier, messieurs, Mme Charest a décidé de réouvrir la commission parlementaire parce qu'il y a de nouvelles informations qui sont ressorties dans les médias. On parle d'une histoire là, qui est sortie là, encore par Martin Leclerc de Radio-Canada sur justement là, un jeune du nom de Stephen Kirk dans les années 90, donc sur les aventures vécues par Stephen Kirk dans justement en 1995, entre 1995 et 1998. Et ça me surprend vraiment beaucoup, messieurs, parce que Mme Charest était vraiment sortie en grande pompe pour justement là dire « Non, la commission d'enquête, c'est assez pour une journée. On en a eu assez, on en a eu assez. » Mais là, elle a décidé d'arrêter de faire de la bureaucratie et elle décide qu'on revienne en commission parlementaire prochainement. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi, c'est que Gilles Courteau a décidé de revenir lui aussi en commission parlementaire parce que, selon lui, il doit redonner des explications là, sur les événements et sur les différentes informations qui ont été sorties. D'un autre côté, ça me surprend, messieurs, parce qu'on se rappellera que lors du 23 février, ses propos étaient vraiment décousus. Là. Ça n'avait pas de bon sens qu'est-ce qu'il disait. Là. Il disait qu'il n'était pas au courant, que les choses devaient rester dans les chambres. Qu'est-ce qui se passe dans les chambres? Reste dans les chambres.
Arc.
Hey! Ah.
Parce que là, ça
il a porté serment. Hein? Je tiens à dire qu'il a porté serment. Et lorsque tu portes serment, n'importe quoi que tu dis peut être retenu contre toi. Et tu dis, hey, tout ce qui se passe dans les chambres, reste dans les chambres. Pensez-vous qu'il va arriver avec la même attitude lors de cette continuité de la commission parlementaire? Pensez-vous que ça va être la même attitude? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que c'est un gars en ce moment là, qui a hâte de prendre sa retraite. Puis je le comprends. Là. Ça fait 45 ans qu'il travaille pour la LHMQ. Là. Je le comprends. Là. Il doit avoir hâte à maudit en 2024. Là. Mais j'espère.
En 2024, oui.
J'espère que la commission sera bien faite, qu'on va inviter les différents joueurs qui ont décidé de lever la main et qu'on va vraiment challenger le commissaire de la LHGMQ sur les différents problèmes qui se sont passés dans la Ligue au courant des années où est-ce que le commissaire a été en poste. Donc, ce qui veut dire 35 ans en tant que commissaire.
Mais
35 ans en tant que commissaire, mais tu sais, il n'y a pas juste du mauvais non plus. Là, on a renommé la Côte du Président à son nom. Ça veut dire qu'il a été marquant pour la Ligue.
C'est un excellent, honnêtement, c'est un énorme bâtisseur. Il a fait beaucoup pour le sport.
Si la Ligue junior majeure du Québec est ce qu'elle est, est l'une des ligues les plus prestigieuses, probablement junior en tout cas au monde, c'est grâce à Gilles Courteau. Les propos qu'il a dit en cours et qu'il a dit ce qui se passe dans les chambres, complètement dégueulasse. Complètement dégueulasse.
Ouais, je me rappelle toujours de M. Pascal Bérubé, qui est représentant du Parti québécois, qui avait repris Gilles Courteau lors de cette première journée de commission-là. Il avait dit « Oubliez pas que vous êtes sous serment en ce moment. » Parce qu'il était en train de bafouer la vérité, contourner un petit peu les cônes oranges de la ville de Montréal pour justement ne pas avoir à sortir là, et être un livre ouvert en commission. Puis ça, je trouve ça très problématique.
Mais oui, puis... Il dit que ça reste dans les chambres, là. Mais c'est venu à ses oreilles. Puis il a tout simplement rien fait parce qu'il veut.
C'est sorti dans les journaux qu'il était au courant. Hein?
Mais oui.
C'est sorti dans les journaux qu'il était au courant. Puis c'est pour ça qu'Isabelle Charest a décidé hey, on va retourner en commission parce que là.
Ouais, mais aussi, là, le move de l'avoir fermé après une journée, c'était pas la meilleure.
Et c'était très bureaucratique. Puis je veux dire, honnêtement, il est grand temps que le gouvernement se réveille par rapport à ça, parce que j'ai eu la chance de discuter là, avec plusieurs parents. Je suis allé voir une partie de M13, dans le fond M13D1, en fin de semaine dernière. J'ai eu la chance de parler à plusieurs parents, puis je me suis dit, hey, j'ai un de mes amis qui arbitre, puis je me suis dit, hey, j'ai la chance de pouvoir faire un petit peu de sondage, de discuter, faire un vox pop. Puis les parents sont inquiets de l'avenir du hockey. Les parents aiment pas ça, parce qu'ils ont peur de qu'est-ce que les enfants vont subir, qu'est-ce que les enfants font dans les chambres. Puis tout ça passe par la ligue que les jeunes visent quand ils sont juniors, et même pas capable de dire la vérité.
Quand t'es supposé montrer l'exemple...
Il y a du très beau dans le hockey, mais présentement, c'est juste du négatif qui ressort. Puis même moi, en tant que parent, si j'étais parent, je voudrais pas que mon jeune joue au hockey, justement à cause de tout ce qui se passe.
Ah, moi personnellement, j'irais pas jusque-là. Là. Je trouve que ça va un peu trop loin. Le hockey est pas un sport dégueulasse. Puis c'est dans tous les sports, là. Là, c'est le hockey qui est sur la map. Mais tu sais, je pense à plein de sports individuels qui y a plein d'affaires dégueulasses qui arrivent.
Qu'est-ce qui s'est passé en gymnastique aux États-Unis avec Lamar Nassar? C'est sûr qu'il y a du pas beau partout. Mais lorsque tu as une personne qui est en position d'autorité, qui s'en va en commission parlementaire et que depuis 35 années décide de fermer le clapet, de rien dire.
Mais justement, on l'a mentionné, 35 ou 45 ans?
35 ans comme commissaire, 45 ans au service de la Ligue.
En tout cas, 35 ans comme commissaire, OK? On est rendu en 2023, les choses ont changé depuis 35 ans. Est-ce que, peut-être que M. Courteau a pas réussi à évoluer avec les années, à évoluer avec la mentalité que, comme, tu sais, il y a des affaires qui se font plus. Tu sais, en 1990, je suis pas en train de dire que c'était correct, là. C'est loin de là. Mais il y avait... C'était plus lousse, puis maintenant c'est plus...
Je pense que c'était pas plus lousse, c'est juste que c'était vu comme accepté. T'sais, les entraîneurs avaient certaines attitudes qu'aujourd'hui ne seraient pas acceptées, mais on va parler d'Enrico Ciccone, qui est justement pour le Parti libéral, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, un ancien joueur de la Ligue junior majeure, qui est sorti cette semaine en grande pompe en parlant de son histoire. À quel point il a vécu des choses qui l'ont traumatisé à vie. T'sais, je veux dire, lorsque t'as... quelqu'un qui a vécu des expériences, qui est en position d'autorité, qui est dans un parti politique, qui est au Parlement. C'est sûr que ça fait réagir. Et présentement, qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs personnes demandent la démission du commissaire. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, messieurs, parce qu'on s'entend, il s'en va à la fin 2024, au mois de mai 2024, si ma mémoire est bonne. Pensez-vous que ça vaut la peine qu'il démissionne un an et demi avant sa date de fin? On est en période de transition présentement dans le junior majeur.
Justement, je crois que...
On est dans une période importante.
C'est difficile à dire parce que je crois que pour une bonne transition, pour que la Ligue, je parle bien de la Ligue, reste bien, je crois qu'une transition d'un an et demi serait bonne. Mais là, dans les circonstances, ça va être à juger si on demande à Gilles Courteau de tout simplement quitter et que quelqu'un soit mis en place tout de suite.
On est déjà en processus pour le remplacer, c'est certain. On a déjà des candidats en tête du côté de la LGMQ, c'est sûr et certain. Puis en exigeant sa démission... Ben, t'accélères le processus, ça devient prématuré un peu. Puis honnêtement, moi, si j'étais dans la LGMQ, ça me ferait peur.
Oui, non, exactement. Puis je vais finir mon argumentaire sur ce sujet-là. Je crois que le ministère du Sport, donc incluant Mme Charest, doit vraiment retourner à la planche à dessin et essayer de trouver des solutions pour redonner confiance.
Puis on doit aller sur le terrain. Être dans un bureau, là, ça va rien faire.
Non,
ça va rien faire. Tu dois être... présente à des matchs, être présente à des après-matchs, voir, tu sais, faut que tu vois comment que les joueurs sont, puis pour que tu puisses comprendre, puis prendre des meilleures décisions.
J'ai vu plus de ministres, au match du Pee-wee de l'Ukraine contre la Roumanie que dans tous les matchs de junior majeur que j'ai vu toute ma vie.
Et voilà. Je pense que t'as tout dit. Puis sincèrement, c'est complètement. Ça me dépasse ce sujet-là. Merci beaucoup, Charles. Je vois que c'est un sujet qui touche, puis ça touche beaucoup de gens. Il est présentement 8h12. On va aller en pause. Donc, vous êtes sur les ondes de Chiss 94.3 et on se retrouve juste après la pause et on va parler de la grève des autobus. Restez là.
Prendre la fuite, votre sang peut te tuer.
Vous écoutez L'Allongée sur les ondes de Chiz 94.3.
8h19 sur les ondes de Chiz 94.3 dans l'émission de L'Allongée. Maintenant, depuis le 16 février, les gars, 6000 enfants sont privés de leur transport scolaire. 85 chauffeurs sont maintenant en grève depuis le 16 février qui ont commencé leur grève illimitée. Écoutez, je voulais parler de ça avec vous parce que c'est un sujet qui fait extrêmement jaser, qui change l'habitude, la routine de beaucoup de parents. Tu sais, je pense à 6000 jeunes, c'est beaucoup de parents, là. Tu sais, quand tu fais x2, là. Fait que, écoutez, je sais pas comment, mais là, va falloir trouver un moyen de s'asseoir et tout simplement d'en discuter. Parce que là, ça, je pense pas qu'on peut continuer à être en grève indéterminée comme ça. Parce que là, il y a des parents que ça change, tu sais, qu'il faut qu'ils partent 2 heures plus tôt, qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école 2 heures plus tôt parce que ben leurs parents travaillent de bonne heure, mais eux, ils recommencent juste l'école à 8 heures. Je comprends totalement les chauffeurs parce que en moyenne là, les chauffeurs sont payés 21 000 $ par année, ce qui est sous le seuil de la pauvreté au Québec. 15 et 10 $ de l'heure. Ils font à peu près 20 heures par semaine, plus parfois à cause des sorties spéciales. Les gars, ma question pour vous est comment on pourrait réussir à régler. Moi, je crois qu'on devrait personnellement donner l'argent, donner ce qu'ils veulent, parce qu'on peut pas se permettre de perdre ces chauffeurs-là. Puis aussi, je veux rajouter du pouce sur les chauffeurs. Je trouve qu'on donne pas assez de crédit à des gens comme ça. Mais l'importance que ça a, quand on les a plus, là, c'est là qu'on se rend compte. Les personnes en entretien ménager, les femmes de ménage, les chauffeurs d'autobus, c'est tous des métiers que on pense que tout est acquis, puis bien souvent, on manque de respect envers ces personnes-là.
On va faire une belle analogie. Je trouve que ces gens-là, c'est un petit peu les employés de soutien. Les gens de 3e, 4e ligne sur une équipe de hockey. Puis on se rend compte que pour gagner une Coupe Stanley, ça en prend des gars de 3e, 4e ligne. Donc, des chauffeurs de bus, des gens d'entretien ménager, des TES, donc des gens en éducation spécialisée, des techniciens en service de garde, ça prend tout ce monde-là.
Ça prend autant
pour le succès académique d'un élève. Là.
Ça prend autant un chauffeur d'autobus qu'un enseignant. Parce que sans un ou sans l'autre, le système est brisé.
Puis je veux dire, la journée d'un jeune commence par le bonjour d'un chauffeur d'autobus.
Exactement.
Et du transport à l'école. Puis je trouve ça vraiment dommage pour les parents, tu sais, puis je veux pas vraiment venir dénigrer les émotions que les parents vivent présentement et qu'est-ce que les enfants vivent présentement, tu sais, je veux dire, c'est vraiment triste pour il y a une mère qui parle qui vient à l'école juste ici, juste derrière le CHUL, qui est obligée de faire l'aller-retour Saint-Augustin. Sainte-Foy, Saint-Augustin.
J'ai vu un témoignage, il y a une mère qui part de Scott, ouais, sur la rive sud, tout près de la Beauce, là, juste avant la Beauce, juste avant Sainte-Marie, qui vient ici à Québec, puis qui fait un aller-retour juste pour ça.
Mais c'est ça, mais comme je dis, je trouve ça vraiment plate, tu sais, que vous ayez à faire ça, puis vous êtes vraiment bon de donner autant de temps à vos jeunes, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, mais par contre, les chauffeurs de bus ont vraiment le droit de...
Mais ils demandent leur part du gâteau, puis à un moment donné... T'sais,
mais j'ai vraiment hâte de voir comment on va être en mesure de pouvoir leur remettre leur part juste du gâteau, dans le sens où est-ce que, t'sais, je sais que le gouvernement a énormément investi là, dans les différentes compagnies de transport pendant la pandémie pour leur permettre de survivre, justement avec l'école à la maison et tout. Et j'aimerais vraiment voir comment cet argent-là a été utilisé. Je sais qu'il y a une partie de ces fonds-là qui ont été là pour bonifier le salaire des chauffeurs de bus. Mmh. Par contre, est-ce que tout cet argent-là a été servi pour bonifier les salaires? Est-ce qu'il y en a qui ont utilisé pour payer leurs dettes, etc.? Tu sais, j'aimerais vraiment avoir, ouais, un petit peu le calcul de ça pour voir si les demandes salariales sont si réalistes que ça aussi.
Puis 21 000, je parlais du sous le seuil de la pauvreté. Puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches. Mais ce que les chauffeurs d'autobus vivent, c'est aussi très difficile. Parce que dans les autobus, là, c'est pas des enfants qui sont blancs comme neige, là. Hey, y en a, là, qui te l'envoient promener, le chauffeur, là.
On faisait du surf dans les bus.
J'ai été dans un autobus scolaire avec un chauffeur, puis ces personnes-là ont tellement de la patience, puis des fois, quand t'as pas un qui se fâche vite parce qu'il est tanné de se faire écœurer ou de quelque chose comme ça, ben là, on reçoit des plaintes.
Puis parce que le chauffeur, faut qu'il se concentre sur la route, là. Je veux dire, il y a quoi? Il y a la vie de 50 enfants entre les mains.
De 30 jeunes,
mettons qu'il entend crier dans l'autobus, ben ça le déconcentre, puis il se fâche, c'est normal. Exactement, totalement bon point.
De notre côté, messieurs, vous parlez qu'ils font combien d'heures par semaine? Environ 20 heures plus?
Environ 20 heures, mais... juste pour le transport des élèves matin et soir. Et ça peut tomber à comme 25 heures avec des activités spéciales, mais on sait les activités spéciales, c'est pas tout le temps.
Oui, mais ils peuvent pas non plus être demandés d'être payés comme quelqu'un qui fait 40 heures non plus. T'sais, ça, on doit enlever ça de l'équation. J'ai vu des chiffres qui sont sortis où est-ce que... Ou est-ce que justement ils voulaient être payés? Il y a certains conducteurs d'autobus qui voulaient être payés comme des employés de 40 heures. Tu sais, ça marche pas. Il faut comprendre que.
Puis aussi, les chauffeurs de bus, parfois, c'est des gens qui sont à la retraite et ils cherchent un gang-pain pour arrondir les fins de mois, puis qu'ils soient corrects financièrement, puis c'est totalement correct. Et. Parce que, tu sais, on peut pas commencer, comme tu dis, Charles, à payer un chauffeur d'autobus le même salaire qu'un médecin. C'est pas les mêmes études, là.
Non, exactement. Par contre, je trouve que leur point est de vouloir être payé pour les heures réellement travaillées. Ce qui veut dire les heures d'attente, les heures d'entretien d'autobus.
Tellement,
ouais. Les heures...
Surtout les heures d'attente, là.
Tu sais, non, mais, tu sais, mettons, l'école finit à 3h30, par exemple, mais ils vont être là une heure d'avance. Ils vont venir parquer leur autobus une heure d'avance pour justement être prêts, faire le tour des autobus, ainsi de suite.
Donc, sinon, là, durant les activités spéciales, puis c'est sûr que tu en as fait. Mettons, là, tu vas au Grand Théâtre à Québec. Là.
Ouais, ils vont okay? ils attendent, pas chez eux. Là.
C'est ça, ils attendent le temps de la pièce de théâtre, puis après ça, ils reviennent vous chercher. Puis lui, durant ce temps-là, il a passé une heure et demie, peut-être deux heures à vous attendre. Donc, c'est deux heures qui devraient être payées. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il devrait gagner 50 000 par année, mais tu sais, au moins avoir un taux horaire de 20 $ de l'heure, 22, serait parfait. Puis aussi, dans leur demande, ils voudraient être payés 25 heures semaine minimum. Ce qui est à peu près là.
Est-ce qu'il faut qu'ils travaillent ces 25 heures-là? Tu sais, si on inclut le temps d'attente, parce que s'ils sont dans leur autobus ou c'est en lien avec leur autobus, moi, je vois pas le problème de les payer 25 heures minimum.
Je sais pas si vraiment ils passent 25 heures dans l'autobus. C'est sûr que quand, je le dis plus tantôt, des activités spéciales, là, oui. Mais ils font pas ça chaque semaine. Il y en avait qui disaient qu'ils font jusqu'à minimum 18 heures. Donc, tu sais, il y a quand même un 7 heures. Puis je crois pas que tu passes 7 heures dans une activité spéciale quand tu vas à Québec, mettons, ou quand tu vas sur la rive sud, là. Mais, tu sais, être payé minimum 25 heures semaine, je crois que c'est une demande qui pourrait être acceptée. Surtout, ben, tu sais, comme on le dit, là, c'est pas facile d'être chauffeur de bus, là. Je l'ai vu, puis je l'ai pas vécu.
T'étais tannant comme moi, hein, c'est ça, hein. Tu en as fait
ça. Pas tant que ça pour vrai, mais. Tu sais, des fois, un chauffeur de bus qui pognait les nerfs, j'étais comme, ouais, calme-toi. Mais maintenant, on dirait qu'avec. Ouais. Tu sais, j'ai maturé, j'ai vieilli, puis je me rends compte à quel point qu'ils ont un travail qui est difficile. Puis aussitôt qu'ils font un erreur, ou tu sais, l'erreur, comme Émile l'a dit, peut être tellement fatale, un accident, ou aussitôt qu'ils se fâchent un peu, ben, ils reçoivent des plaintes des parents. Hey, t'as fait ci à mon jeune, mais comme, on n'a pas le contexte, là.
Moi, je me rappellerai toujours, j'étais en quatrième secondaire, et un chauffeur de bus que j'avais, c'est un ancien policier. À cause de sa connaissance, a littéralement, j'irais peut-être pas sauver la vie, mais est vraiment venu limiter l'accident qu'on avait eu. On faisait la run, on était dans le quartier Les Saules, où est-ce qu'on a cherché des étudiants avant d'aller à l'Académie Saint-Louis. Puis il y a une déneigeuse qui a décidé de brûler son stop. Puis le chauffeur de bus, je me rappelle plus son prénom, avait anticipé le fait que le déneigeur allait brûler son stop. Puis la façon qu'il a placé la bus, à cause de sa connaissance de l'appareil qui conduisait, a été en mesure de se mettre dans une position qu'il est venu frapper en avant de la bus et non en plein centre, comme normalement. Et c'est venu vraiment venir diminuer l'accident qu'on a eu.
Ouais, puis, tu sais, là, tu parles d'un accident, tout ça, mais moi, je veux revenir à des chauffeurs d'autobus qui se fâchent. On a vu une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux d'un chauffeur d'autobus qui crie après des enfants à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Puis ça, c'est mon école secondaire, puis ben j'ai salué ça hier.
Ouais, c'est ça.
L'école secondaire de Mont-Saint-Anne, c'est mon école secondaire. Puis tu sais, ce chauffeur-là, je le connais pas, mais honnêtement, pour avoir connu les chauffeurs en général à l'école secondaire de Mont-Saint-Anne, ça en prend pour qu'ils se fâchent, là. Fait que tu sais, c'est ça que je disais à mon entourage, je disais, ouais, mais ça n'a pas de sens, c'est écrit sur un enfant. Ouais, mais il l'a cherché, là.
Ben, c'est sûr.
C'est sûr qu'il l'a cherché.
Puis parfois, ben, on dirait que c'est jamais la faute des enfants, malheureusement. Puis c'est
on s'en va en pause.
C'est donc c'est ça. Je sais pas pourquoi ça a coupé complètement mon idée. Il est présentement 8h29. Vous êtes sur les ondes de 694. Vous écoutez l'allongé avec Maxime, Charles et Émile. On se retrouve après la pause.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3.
Cheese.
Oh yeah, Cheese.
Pour le meilleur beat, Beatnik Show, man. Je te le dis, c'est malade.
J'ai dit à la nuit qui passe que les tempêtes ne sont que les reflets de ceux qui font la guerre. J'ai dit à la nuit qui passe que les orfèvres ne sont que les reflets de ceux qui s'aiment trop eux-mêmes. Ici on riait un peu des hommes, desquels tu fais ressortir à un, desquels tu peux ressentir. Si on riait un peu des hommes, crois-tu que tu aimerais la terre? Crois-tu que tu l'aimerais? J'ai dit de l'ennui qui passe, qu'il est l'enfer, de ceux qui donneraient tout pour se quitter la tête. Qu'elle est pour toi, qui dormirait pour ceux qui reflètent la poussière. Tu dis que la nuit n'est qu'une noire tempête pour tous ceux qui cachent leur reflet dans la lumière. Moi je dis de la nuit blanche, quel est le jour, tous ceux qui se rappellent avoir vu les fleurs quitter la terre. Et si on riait un peu des hommes, desquels tu fais ressortir à un,
allongé sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez l'allongé sur les ondes de Chiz 94.3, Maxime Morin en compagnie de Charles Manta et Émile Clouet. Il est présentement 8h33. Charles, tu veux nous parler d'une députée de la CAQ qui fait face à une enquête criminelle?
Oui, tu l'as bien dit, Maxime, la députée caquiste Marie-Louise Tardy de Saint-Maurice, la Violette Saint-Maurice, en Mauricie, et aurait proféré des menaces dans une salle de cours. Donc, l'histoire s'est passée dans la salle des petites créances la semaine dernière. Comme on dit, on va utiliser le « si » et le « aurait » puisque madame n'a pas été formellement le reconnu coupable qu'est-ce qui a été reproché.
Elle est accusée et non coupable.
Non, exactement. Donc, on met beaucoup l'emphase sur le « si » et le « aurait ». Donc, madame Tardy aurait mentionné à un témoin dénommé Sylvie Guilbeault qu'elle lui aurait, dans le fond, en lui disant qu'elle s'occuperait d'elle dans la salle de cours.
Parce qu'elle témoignait sur un procès...
Grosso modo, Mme Tardy avait une entreprise avant de rentrer en politique.
OK.
Et elle a décidé de congédier une employée qui n'a pas été nommée dans cette affaire-là. Cette employée-là a décidé de la poursuivre aux petites créances pour motif de renvoi non raisonnable. Cette personne-là a décidé d'emmener une témoin qui s'appelle Sylvie Guilbeault qui a témoigné contre Mme Tardy. Elle a fait son témoignage. Madame Tardy serait approchée d'elle et lui aurait dit à l'oreille qu'elle allait s'occuper de son cas
et qu'elle allait la faire arrêter par la police. C'est... On parle aussi au reste.
Si les propos sont vrais, c'est horrible.
Non, c'est horrible parce
c'est
que...
se servir de son pouvoir pour faire peur à quelqu'un, c'est complètement insensé et... J'ai comme pas de mots pour cela.
Mais je comprends pas, il y avait pas un juge dans la salle?
Oui.
Un juge qui pourrait confirmer.
Ouais, mais un petit secret c'est, dans
c'est,
l'oreille.
C'est des propos qui auraient été, en fait, là, mentionnés là, d'oreille à oreille.
Ah, OK, OK. Je pensais qu'il y avait dit devant tout le monde.
Non, non, okay, non. C'est, okay. C'est comme si je m'étais approché sinon, de Max ou de toi, Emile, puis pendant une pause, puis je t'aurais dit quelque chose. Puis présentement, qu'est-ce qui est problématique dans cette histoire-là? C'est que Mme Tardy ne se retrouve pas au Québec. Parce que plusieurs journalistes, ainsi que le whip du parti de la CAQ. Pour tout le monde à la maison, le whip, grosso modo, est le gardien de la discipline d'un parti. Donc, c'est vraiment important qu'il y parle pour voir la vérité de cette histoire-là. Mais Mme Tardy n'est pas au Québec. Elle n'est pas rejoignable présentement. Elle est où? On le sait pas. Mais c'est ça que son attaché de presse a mentionné à tout le monde. Elle est peut-être partie en mission pour le gouvernement. Elle est peut-être en vacances, parce que c'est la semaine de relâche. Mais c'est quand même un petit peu spécial qu'il y a une histoire... En fait, il y a une accusation là de dans il y a une enquête qui est menée par les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et elle n'est pas au pays.
Excuse-moi de m'avancer peut-être sur le sujet, mais si elle était en train de travailler, faire quelque chose, tu sais, mettons en mission comme tu le dis là, ben je crois pas qu'on aurait peur de le mentionner.
Non, ça serait dit,
ça serait dit. Donc elle doit être en vacances puis on est peut-être gêné de ça.
Non, tu sais, mais c'est un timing qui est bizarre, honnêtement.
C'est
un timing qui est très spécial et François Legault a fait une sortie hier mentionnant qu'il veut voir le fond des choses avant de prendre une décision de l'exclure ou non du caucus. Et je crois que c'est bien quand même, je vais y donner, là, il n'a pas réagi sous le coup de l'émotion, c'est une décision impulsive. Je crois que c'est important que dans ce genre d'histoire-là, on aille au fond des choses et qu'on attende que l'enquête soit terminée parce que. On veut justement trouver des solutions pour éviter que ce genre de situation-là se reproduise. Puis, tu sais, comme je dis, on va avoir des dénouements sous peu, mais ce genre d'histoire-là semble se reproduire là, trop souvent. Ou est-ce qu'on entend des histoires, ou est-ce que certaines personnes dans le milieu politique auraient utilisé leur pouvoir pour justement le faire avancer les choses?
Non, ça devrait pas passer. En fait, ça devrait juste tout simplement pas passer, j'allais dire au Québec, là, mais ça devrait tout simplement être inacceptable. Ben, c'est inacceptable si elle a dit ces propos-là. Merci, Charles. On se transporte du côté de la SAAQ, Émile. Explosion de plainte ouais. avec le nouveau site en ligne, là, ça clique.
Ouais. Explosion, c'est le bon mot parce que c'est une augmentation de 153% des plaintes par rapport à 2021.
Je pense qu'il y en avait déjà pas mal parce que beaucoup
entre 2018 et 2021, c'est une moyenne de 1929 plaintes traitées par année. Et puis cette année, en 2022, c'est 4883 plaintes déposées.
J'imagine
traitées.
Pas juste pour début 2023, j'aimerais savoir les chiffres.
Ben, c'est ça. Mais c'est ça, c'est dans le fond. On justifie à la SAAQ que c'est à cause de quand ils ont fermé les services pour la formation du site SACLIC. C'est arrivé au troisième trimestre de 2022. Puis c'est ça, on devait former les employés avec le nouveau site puis tout ça. Puis le PD, ça m'a marqué. Denis Marcellet, le PDG de la SAAQ, qui a dit on est à la neuvième journée de l'implantation de SACLIC. Cette semaine, je vous l'avoue, a été difficile au niveau technique. La plateforme a eu des enjeux importants qu'on a résolus au niveau de la capacité, notamment. Donc, moi, ça me dit, on a arrêté nos services pour créer un site pour tout mettre en ligne.
Pour désengorger les
succursales. Mais on n'est pas capable de... là, c'est rendu le site qui est trop achalandé. Puis là, les succursales sont achalandées encore parce que ça a été fermé quasiment tout le mois de février.
Hier, le site ne fonctionnait pas. Là. J'entendais des gens là, qui étaient à Montréal. Puis ça faisait la queue, là, littéralement, dehors pour être en mesure de rentrer. Puis y a même des agents de sécurité qui mentionnaient aux gens qui attendaient de se représenter demain. Représente-toi demain, mon ami. Et je sais pas pourquoi, ils ont voulu avoir une nouvelle image, pour revenir une version actuelle. Et j'ai vraiment l'impression que la SAAQ est encore dans le mode Windows XP 98. T'sais, qu'on n'est pas en mesure d'actualiser les choses et de bien faire les choses. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnel en succursale, dans les différentes succursales.
Les gens qui sont en succursale. Saclic était pour réduire le nombre de personnel. Donc là, on a réduit le nombre de personnel dans les succursales. Et là, tout le monde est là parce que, ben, le site marche pas.
Ben, c'est sûr. Dans tous les médias disent le site, c'est de la marde. Ouais. Fait que pourquoi les gens iraient sur le site?
Ben, c'est ça.
Je sais pas si vous avez vu, c'est quoi que Denis Marcellet a dit hier, le PDG de la SAQ?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, Monsieur Marcellet, il a mentionné qu'il allait s'assurer que certaines succursales aient des heures d'ouverture plus longues lorsque c'est possible. J'aime bien le « lorsque c'est possible ».
Lorsque c'est possible.
Et ouvrir aussi, avoir plus de journées d'ouverture lorsque c'est possible.
Ben, mais ils sont ouverts du lundi au vendredi, ils vont certainement pas ouvrir le samedi puis le dimanche.
Lorsque c'est possible, c'est très important là-dedans, parce que je veux dire, on est déjà en pénurie de personnel à la SAQ, puis on veut en rajouter davantage.
Écoutez, moi, vous le savez, j'ai perdu mon portefeuille dans les dernières semaines, et puis il a fallu que j'attende en plein mois de février pour avoir un permis de conduire.
Ouais, t'es en plein dans la fermeture de les SAQ.
J'étais en plein dans la fermeture. Et puis, pour les informations pour accéder ou créer ton compte sur Saclic, il y a trois choses. Le numéro d'assurance sociale, ce qui est commun, tout le monde a ça à la maison. Votre numéro de carte d'assurance maladie, ce que tout le monde a à la maison, encore une fois. Et ce qui, pour des gens, peut devenir compliqué, dont pour moi qui, tu sais... Moi, je laisse mon rapport d'impôt à ma comptable, puis elle le fait, puis moi, après ça, je m'occupe pas de ça. Votre numéro d'avis de cotisation délivré au cours de l'une des deux plus récentes années d'imposition. Donc, il y a du monde qu'ils gardent tout simplement pas leur rapport d'impôt, puis ils ont pas ça, donc là, ça devient plus compliqué. Puis au lieu de tout chercher ça, puis de chercher ci, puis de chercher ça, ben, le monde font juste, OK, je m'en vais en succursale, puis, tu sais... J'ai un de mes amis, là, son père a passé la journée pour faire immatriculer son auto. Il a passé la journée, là. Tu sais, tu perds ta journée pour immatriculer un véhicule. Pour moi,
c'est... Non, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, tu sais, le but d'un service du gouvernement, c'est d'aider la population.
Et?
Tu sais, c'est de rendre la vie beaucoup plus facile, indirectement. Là, ouais. Je veux dire, ça a été mis en place pour réglementer là, tout ce qui touche l'automobile. Mais le but premier est bien sûr, oui, réglementer, mais aussi de venir aider la population. C'est un service qu'on rend à la population. Là.
Exactement. Puis, ma prochaine hypothèse, c'est pourquoi avoir fait ça dans le mois de février, dans un mois achalandé, après la période des fêtes? Pourquoi au mois de février? Pourquoi vous avez pas attendu au mois de juillet, où le monde sont en vacances, tu sais, le monde part en vacances, le monde, ils pensent pas à immatriculer nécessairement leur véhicule. Oui, il y en a, oui. Mais pourquoi tu fais pas ça un mois de juillet où est-ce que ça va être moins chalandé? Pourquoi tu fais ça dans le mois de février?
C'est peut-être une question de contrat aussi avec la personne qui s'est occupée du site web. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de variables.
Mais je crois qu'on aurait pu négocier puis attendre en juillet, là, Charles.
Je pense que honnêtement.
Parce que là c'est du monde qui ont attendu pendant deux mois, qui roulait. Les policiers font des affaires. Tu sais, ils voient qu'un véhicule est expiré, l'immatriculation est expirée, permis de conduire est expiré. Ben ils sont obligés de laisser faire ça.
Je sais qu'il y a des délais. Là, on voit plusieurs histoires cette semaine. Ou est-ce que des gens, ça prend 72 heures avant que le paiement soit passé, là. Ce qui veut dire qu'ils vont se faire, ils vont payer leur permis de conduire le lundi, ils se font arrêter le mercredi pour se faire dire, hey, ton permis n'est pas payé, mon ami. Mm-hmm. Il y a des délais au niveau des paiements. J'ai même entendu des histoires que chez Desjardins, ça prend un mois de délai avant que le paiement soit passé. Un mois.
Un mois, c'est beaucoup trop long, là.
Un mois, c'est énorme. C'est énorme.
Tu sais, moi, j'étais supposé recevoir ma carte de permis de conduire à partir du 20 février. Je l'ai toujours pas reçu. J'imagine que ça va prendre encore une couple de semaines.
Ça va arriver par hibou, j'ai entendu.
Par hibou. Émile, t'avais...
Comment?
Tu me fais signe?
Ouais, mais pour te faire signe que je t'avais envoyé la musique.
Ah, OK.
On s'en va à pause musicale avec Microdose de Aramis.
Vous êtes sur les ondes de Cheese 94.3.
Bonjour, je m'appelle Rolgen Sonnoel. Vous écoutez Cheese 94.3, la radio des étudiants de l'Université Laval.
Je me lève tous les matins, c'est la même. Je m'amuse tous les matins, oui, je l'aime. Quand il stresse trop, elle même s'endort. Je la prends dans mes bras et je sens très fort, yeah. Je me lève sur des patins, je sens bien. Autant qu'avec une bouteille de vin. J'aimerais juste tout le temps être avec toi. Sous le même toit, rire et parler tous les soirs. En prenant des micro-doses. 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 Yeah, yeah.
speed. Elle fume du cannabis, elle tombe triste. Elle pense je me moque d'elle, moi je la trouve trop belle. Nos énergies diffèrent, laissez faire l'amour. Va faire son tour et tourne en rond. Toi petit cochon, je suis le méchant loup. Je te fais la cour mon chou. Je te parle de plus en plus doux. J'ai pas notre amour, soit de la dépendance. J'espère qu'on peut appeler ça de la romance. J'aimerais juste tout le temps être avec toi. Sous les mêmes toits, rire et parler tous les soirs. En prenant des micro-doses.
L'allongé sur les ondes de Chiz 94.3.
8h46, l'allongé sur les ondes de Chiz 94.3. Beau gros soleil sur Québec aujourd'hui. Je pense qu'on le mérite, la gang. On le mérite carrément.
On peut demain, pas demander mieux, hein?
On peut pas demander mieux.
Commencer à relâche, on peut pas demander mieux.
Écoute. Hey, c'est vrai ça, hein? Puis tu sais, pour tous ceux-là qui vont retourner dans leur famille, c'est cool parce que c'est une belle journée. Pas de tempête, parce que là, ça va faire trois vendredis qu'il y a genre des tempêtes hiver, qu'il y a des tempêtes records à chaque semaine, là, c'est n'importe quoi. Demain, plus nuageux. Dimanche, lundi, beau gros soleil. Ça va bien débuter la semaine de relâche, comme tu l'as si bien dit, Charles. Demain, un maximum de moins 9. Et aujourd'hui, ça va être un maximum de moins 13. Il fait présentement moins 11 à Québec.
Oui, au niveau de la circulation, c'est très fluide sur le réseau routier dans la vieille capitale. Par contre, encore une énorme congestion là, sur la capitale à la hauteur là, de Laurentier. C'est au rouge foncé. Justement, il y a une entrave encore. Là, il y a une voie de fermée sur la capitale direction ouest à la hauteur de Laurentier.
Sinon, nouvelle, un camion est entré en collision avec plusieurs véhicules à l'angle de l'avenue Chauveau et du boulevard Saint-Jacques vers 20h50. Le Ford F-150 a brûlé un feu rouge pour ensuite percuter plusieurs véhicules. Les occupants du camion ont pris la fuite à pied. Le SPVQ a confirmé que le camion était volé. La rectrice de l'Université Laval se dit déçue des professeurs qui sont massivement en faveur de la grève. L'appui en faveur de la grève s'est élevé à 94,5% jeudi matin. Vladimir Poutine s'isolerait de plus en plus. Il vivrait avec sa maîtresse dans un palais privé au nord-ouest de la Russie, aux abords du lac Valdaï. Le président russe s'impatiente de plus en plus. Il exige à ses troupes la victoire à tout prix en Ukraine. Le tricolore s'est incliné 3-2 hier dans la ville des Anges au Crypto.com Arena. Les Kings de Los Angeles sont venus à bout des hommes de Martin Saint-Louis, alors que les Canadiens avaient pris les devants grâce à Josh Anderson. Denis Gourianov a plus tard inscrit son premier but dans l'uniforme du CH. Le prochain match des Glorieux se jouera à Anaheim ce soir à 22h.
À mentionner aussi ce soir, les Remparts de Québec sont sur la route à Shawinigan et Charles Manta sera pas à la description.
À la mise en onde.
À la mise en onde de Rick Loutier. Donc, manquez pas ça, c'est à compter de 19h.
18h45, l'avant-match.
Donc, soyez là, c'est un rendez-vous sur les ondes de Chiz 94.3, fier partenaire, fier diffuseur des Remparts de Québec. Écoutez, Émile l'a bien dit dans son bulletin de nouvelles, la grève des enseignants à l'Université Laval fait beaucoup jaser, Charles.
Oui, donc il y a une grève, dans le fond, un mandat de grève illimité qui a été voté à l'unanimité hier.
94%.
94%, donc un mandat de grève illimité qui fait en sorte qu'ils peuvent gréver le temps que les négociations se passent. Cela vient faire suite au mandat de grève de 2 semaines qui a commencé là, justement le 20 février, ouais. Qui a pris fin, en fait, qui prend fin aujourd'hui.
Et c'est... là, c'est la semaine de lecture, semaine de relâche, donc on a une semaine à ajouter, semaine de congé, entre guillemets. Et si on n'a pas d'entente après la semaine de relâche, si je comprends bien, reprends-moi si...
Ça commencerait le 13 mars. Donc après la semaine de relâche.
Après la semaine de relâche. Okay.
Donc ça viendrait affecter 50% des cours à l'Université Laval, puisque 50% des cours sont donnés par des chargés de cours.
Et c'est... là, si à partir du 13, on n'a pas recommencé, ça ferait 3 semaines qu'on manque. Donc... Et là, on dit encore du côté de l'Université Laval que pour l'instant, il y aura pas de comment je pourrais dire ça?
La session sera pas prolongée.
La session sera pas prolongée.
C'est ça que, qu'est-ce que Mme Damo, la rectrice de l'université, a mentionné, que la session ne sera pas prolongée. Elle se dit aussi très déçue, justement, de ce mandat de grève illimité-là. Les demandes du SPUL, donc du syndicat des professeurs de l'Université Laval, viennent toucher, bien sûr, le salaire. Ils demandent une augmentation de 20%. Ce qui viendrait réduire l'écart avec d'autres universités là, importantes au Canada, donc 15 universités canadiennes. L'Université Laval veut se rapprocher de ces 15 universités-là avec une augmentation de 20%. Ou si on demande une diminution des charges de travail, donc moins de tâches pour les enseignants de l'université. Et aussi, on voudrait venir protéger les enseignants plus vulnérables. Tu sais, comme je dis, l'écart salarial, ça peut être...
Est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent dire par vulnérable ou...
C'est un terme qui est très bref et je ne veux pas m'aventurer là-dessus parce que c'est un plancher qui est très glissant mais ça reste
mettons
que...
Mettons, si on reste au fait, est-ce que tu peux en parler ou...
Mais tu sais, ça peut être des professeurs qui reviennent de retour de maladie ou des professeurs en situation de handicap. Et c'est bien de vouloir protéger ces professeurs-là. Indirectement, ils ont le droit de... Tu sais, ils ont le droit de pratiquer leur métier parce qu'à la base, c'est des pédagogues.
Mais non, mais c'est juste, je me questionnais, puis probablement aussi, il y a des gens à la maison qui se questionnaient par rapport à vulnérable, qu'est-ce que ça voulait tout simplement dire.
Puis, tu sais, par contre, c'est encore les étudiants qui écopent dans cette situation-là. Bien sûr, vous allez me dire, Charles, une grève est bien sûr d'avoir des impacts, mais c'est les étudiants qui écopent. Et là, on a plusieurs témoignages d'étudiants qui se disent très stressés de cette situation-là, parce que c'est un parcours académique qui est chamboulé un petit peu.
Il y en a qui ça va faire 4 ans qui sont rendus à leur thèse finale, qui vont terminer l'université et qui doivent attendre de se faire corriger leur dernier examen. Et aussi, là, ça, c'est eux, ici, locaux, au Québec. Il y en a des internationaux qui nous viennent de la France, qui viennent faire leurs études à l'Université Laval. Et tu sais, là, à cause que les cours sont arrêtés, ils vont plus à l'école. Là, ils sont comme en pause un peu. Parfois, leur contrat de travail avec le gouvernement est terminé. Donc, il y en a que le gouvernement va tout simplement dire, « Ah, ben, tu sais, tu travailles plus, tu vas plus à l'école, ben, tu retournes dans ton en France ou dans ton pays. Ouais. » Puis, ben, ça vient tout briser leurs études qu'ils ont fait pendant 4 ans. Donc, ça affecte vraiment beaucoup, beaucoup les étudiants. Émile?
Oui, ben juste une petite parenthèse pour la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Nick Bonino, de retour à Pittsburgh, les Sharks de San Jose l'ont échangé à son ancienne équipe. Aucun détail sur la transaction, à part que Nick Bonino prend le chemin de Pittsburgh.
Ah bon, ben tant mieux pour...
J'ai fait des petites recherches. Je viens de voir que le salaire moyen d'un professeur à l'Université Laval est de 134 400 $. On parle aussi que depuis 2012, les salaires ont bonifié de 2% par année. C'est une hausse de 2%. Puis là, on veut jump de 20%. C'est un petit de 20%.
Mais
c'est quand même énorme.
Je sais pas pour toi, puis écoute, peut-être que je m'avance encore une fois dans un terrain glissant, mais on veut augmenter les salaires et réduire les tâches.
C'est deux contextes.
C'est deux affaires totalement différentes. Mmh. Pour moi, c'est tu gardes le même nombre de tâches et t'as un salaire. Tu sais, mettons un médecin, OK? Ils sont débordés, ils travaillent tout le temps très, 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 très fort. Ben, pour moi, ça serait logique de demander une augmentation de salaire. Puis, bon, dans leur cas, c'est pas possible une réduction des tâches. Mais là, on demande réduction des tâches et augmentation de salaire. Donc, on veut en faire moins, mais on veut être plus payé qu'en ce moment. C'est comme contradictoire, je sais pas si vous comprenez.
C'est une situation quand même assez spéciale. J'ai vraiment hâte de voir là, comment on va être en mesure de trouver un terrain d'entente. Parce que l'Université Laval semble vouloir tenir son bout comme on dit. Et le SPUL aussi, donc le syndicat des professeurs, veut aussi tenir son bout. Donc, le terrain d'entente semble assez, quand même assez fragile. Et faut penser aussi aux étudiants là-dedans. Tu sais, c'est les étudiants qui sont plus importants. Oui, les conditions de travail, c'est important. Oui, le salaire, ça fait partie du travail.
C'est le médecin de demain, c'est l'enseignant de demain.
Mais pensez aux étudiants en ce moment.
L'ingénieur de demain.
Pensez aux étudiants en ce moment, c'est vraiment ça que... c'est vraiment eux. C'est l'avenir du Québec. C'est le Québécois. C'est le prochain Québécois. C'est lui qui va bâtir le Québec de demain.
Exactement.
Qui est impacté par ça.
Merci beaucoup, Charles. Sinon, on parle dans l'actualité d'enlever le goût dans les vapoteuses, un sujet qui fait extrêmement jaser. Et puis hier, j'écoutais la radio et j'entendais un spécialiste, un docteur qui parlait que oui, c'est vrai que bon, la vapoteuse c'est pas bien, mais ça a des bienfaits sur les gens qui veulent arrêter de fumer. Bon, je suis totalement d'accord avec ça, totalement. Il y en a beaucoup que ça aide. Il y en a beaucoup aussi qui ont juste décidé de commencer à prendre de la vapoteuse, des gens de 25. Puis nous, personnellement, je crois qu'on est bien placé pour en parler. Des gens en secondaire 3 qui se dosent durant leur cours. Là. Doser, by the way, c'est trop de nicotine qui vient un peu faire un effet de buzz.
C'est aucunement intéressant de faire ça à l'école. Je vais écouter un cours avec cette dose de nicotine-là en toi. Il y a rien de bénéfique.
Mais c'est cool. C'est rendu qu'on trouve des vapoteuses dans des casiers des jeunes de 6e année. Là. Ouais. Puis là, on se dit, on s'oppose à enlever le goût pour aider les gens à arrêter de fumer. Ouais, mais là, on est rendu avec des jeunes de 6e année qui sont rendus avec ça. Peut-être que, tu sais, framboise bleue, limonade, fruits tropicaux, name it, ça, là, c'est tous les jus que vous pouvez avoir dans votre vapoteuse.
Le problème, c'est que les compagnies de vapoteuses veulent attirer les jeunes, pas ceux qui en ont réellement besoin pour arrêter de fumer.
C'est ça, paquets, le vrai problème. Sur les paquets de cigarettes, on a mis des langues, des affaires de cancer pis tout. Pis sur les jus, les juices de vapoteuse, on met un petit citron souriant avec
genre
du rose.
Explosion de fruits.
Ah, ça va être génial. On dirait que ça va être une saveur de slush.
On revient au débat où est-ce que lorsqu'on parlait des cigarettes, là, où est-ce qu'on est venu limiter les cigarettes, on a enlevé les cigarettes avec des saveurs à l'intérieur. Tu sais, ça revient au même débat. C'est qui est à risque là-dedans? C'est pas monsieur, madame de 55 ans là, qui va arrêter de fumer. Là. C'est vraiment les jeunes parce qu'on veut attirer les jeunes. Puis à la base, le marketing des compagnies de cigarettes électroniques a tout le temps été axé vers les jeunes. La cigarette électronique a été apportée comme étant une version cool, une solution pour la cigarette. Mais comment veux-tu rendre ça intéressant pour la personne qui a fumé pendant 35 ans? Il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. L'impact est le même. Mais le design, le marketing, on revient aux cigarettes de l'autre fois, on revient au packaging
aussi,
de l'autre fois, on revient.
Les vapoteurs sont accessibles partout, Charles. Sont accessibles en ligne, dans des dépanneurs. C'est totalement facile de juste aller sur, un site comme ça, Amazon, tout le monde connaît ça. Amazon, dire, écrire vapoteuse, t'acheter une vapoteuse, puis dire que t'as 18 ans, puis ça se fait livrer.
On va parler de Formule 1, parce que la Formule 1 commence ce week-end, mais t'as pas le droit, on se rappellera toutes, les plus belles voitures de Formule 1, c'est lorsque t'avais des commandites de cigarettes. Point barre. Mais là, on se retrouve avec des compagnies qui viennent, de compagnies de cigarettes électroniques qui viennent commanditer des écuries de Formule 1. T'as pas le droit d'avoir un nom, t'as pas le droit d'avoir Marlboro, par exemple, mais t'as le droit d'avoir Velos, qui est une compagnie de cigarettes électroniques sur une voiture. Moi, je trouve ça complètement,
c'est quasiment faire la promotion de ça.
Ça me rentre pas dans la tête du fait que on ne peut pas avoir des produits des cigarettiers dans le marketing, peu importe, mais des cigarettes électroniques, ah ouais, donne-moi le cash.
Puis, tu sais, je l'ai dit, là. Puis, oui, il y en a que ça va aider. Puis, quand tu veux réellement arrêter de fumer, là, tu vas prendre les moyens, puis tu vas baisser la nicotine. Mais c'est justement, il y a des jeunes, là, en secondaire 3, secondaire 2, secondaire 1, name it, OK, qui prennent de la nicotine dans leur vapoteuse. Puis, la nicotine, là, ça, là, c'est pas l'effet qui va te buzzer, là. La nicotine, oui, à long terme, oui. Mais la nicotine, c'est ce qui crée l'addiction. Donc, là, en gros, on crée une dépendance chez quelqu'un. Parce que ils prennent. Là, on a baissé avant, c'était du 50 mg le maximum. Là, on est descendu à 20. Mais du 20 mg, là, c'est assez. Puis je pourrais te nommer 1 million de personnes que je connais qui vapotent puis qui ils pourraient pas arrêter demain matin parce que ben ils ont besoin de leur dose de nicotine dans leur vapoteuse. Donc, venez me dire que ça crée rien, puis que ah, ça aide vraiment juste les gens à arrêter de fumer. Mais non, ça crée plein de dépendance, puis tout. Puis c'est full invitant pour des jeunes à avoir plein de belles couleurs, un petit citron qui sourit puis qui dit hey, viens essayer la vapoteuse. Hey, tu vas créer une addiction. Ouais, donc ça a aucun. Ça me fâche tellement là, de voir ça en sixième année, là, c'est complètement dégueulasse. On se laisse sur une pause, il est présentement 8h59, vous écoutez l'allongé sur les ondes de 694.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invité, interview et défi de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Chiz 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
A priori, c'est un cocktail de jasette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politiser, vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Bonsoir, chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non. Ah, chérie, j'arrive! Ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh, ben!
C'est le temps de vous inscrire à Force Avenir. Vous êtes engagé dans votre milieu? Participez à un projet qui a des retombées concrètes? Vous êtes un candidat idéal pour Force Avenir qui reconnaît l'engagement d'étudiants comme vous. Au total, une somme de 114 000 $ sera remise sous forme de bourse pour récompenser les lauréats. Pour plus de détails, rendez-vous à inscription.forceavenir.qc.ca ou communiquez avec le service de la vie étudiante de l'université. Les inscriptions se terminent le 31 mars. Bonne chance à tous!
Déjà mais là, l'encre ne sèche pas.
les gens peuvent témoigner que l'on est fané comme avant. Quand ma nature te blesse, que je te vois qui m'atteint.
On te sert une bonne tasse en compagnie de Maxime Morin, Charles Manta et Émile Clouet.
h 06, l'émission de l'allongée sur les ondes de Chiz 94.3. Beau gros soleil sur Québec aujourd'hui. Demain, ça sera nuageux. Dimanche et lundi, ça sera du soleil. Demain, un maximum de moins 9 degrés. Aujourd'hui, un maximum de moins 13. Il fait présentement 11 degrés. À Québec!
Messieurs, vous allez avoir l'impression que je me répète depuis ce matin, mais c'est beau sur la vieille capitale, sur le réseau routier.
C'est le début de la semaine de relâche!
C'est le début de la semaine de relâche, mais par contre, encore une entrave là, majeure, là, honnêtement, c'est rouge foncé sur la capitale direction ouest, à l'auteur de l'autoroute Laurentien. Honnêtement, ça n'a pas changé depuis qu'on est arrivé en onde.
C'est noir.
Et il y a encore une voie qui est fermée en direction ouest.
Sinon, nouvelle, un camion est entré en collision avec plusieurs véhicules à l'angle de l'avenue Chauveau et du boulevard Saint-Jacques vers 20h50. Le Ford F-150 a brûlé un feu rouge pour ensuite percuter plusieurs véhicules. Les occupants du camion ont pris la fuite à pied. Le SPVQ a confirmé que le camion était volé. La rectrice de l'Université Laval se dit déçue des professeurs qui sont massivement en faveur de la grève. La pluie en faveur de la grève s'est élevée à 94,5% jeudi matin. Vladimir Poutine s'isolerait de plus en plus. Il vivrait avec sa maîtresse dans un palais privé au nord-ouest de la Russie, aux abords du lac Valdaï. Le président russe s'impatiente de plus en plus et exige la victoire à tout prix à ses troupes en Ukraine. Le tricolore s'est incliné 3-2 hier dans la ville des Anges au Crypto.com Arena. Les Kings de Los Angeles sont venus à bout des hommes de Martin Saint-Louis alors que les Canadiens avaient pris les devants grâce à Josh Anderson. Denis Gourianov va plus tard inscrire son premier but dans l'uniforme du CH. Le prochain match des Glorieux se jouera à Anaheim ce soir à 22h.
Mentionné aussi sur le 11 zone ce soir, les Remparts de Québec affrontent les Cataractes de Shawinigan, 18h45 pour l'avant-match avec Charles Manta à la mise en onde et Rick Loutier à la description. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis selon un auditeur, merci beaucoup à vous chers auditeurs, l'accident à Laurentienne serait terminé, donc la voie serait réouverte. Donc bonne nouvelle, si écoutez, vous êtes sur nos yeux sur la route, donc merci beaucoup à vous. Les gars, durant la pause, on a vu un article qui a complètement chamboulé nos plans.
On était un petit peu excités, on va dire les vraies choses. Ça nous a brassé un peu.
Ouais,
mais c'est quand même une bonne nouvelle, honnêtement.
Ben, clairement, là. OK. En gros, je vais vous expliquer ça. Vous savez, les Alouettes de Montréal ont été vendues à la CFL. Mais
ont été mis sous tutelle.
Ont été placées sous tutelle. Ouais. Sous tutelle, ouais.
Ouais, c'est ça.
Sur, deuxième fois en quatre ans, c'est important de mentionner.
Tutorat. Par la CFL. Donc, c'est la CFL qui gérait le club ou qui était propriétaire du club. Et en ce moment, on aurait des négociations avec une organisation québécoise que vous connaissez très bien, Québécois. Mais ça implique, puis en plus on a mentionné que c'est la seule entreprise qui voudrait les acheter, c'est la seule qui est en liste, donc
fait qui a été en fait confirmé par Didier Orméjust
qui travaille justement aux concurrents de Québécois, là, TVA Sport, RDS,
probablement une des personnes les plus fiables dans le monde de la LCF au niveau francophone là, au Canada. Puis je trouve ça très drôle, messieurs, parce que la semaine passée, on a eu un beau segment sur Québécois, TVA Sport et le groupe TVA pour dire à quel point justement c'était dommage que justement le deux, il y a plusieurs employés qui allaient venir à la porte.
Et ma question pour vous, les gars, est-ce qu'on essaie de sortir TVA Sport? Parce que pour moi, les Alouettes ne seront pas la solution, mais.
Et moi, j'aimerais ça. Tu sais, je veux dire, Québécois qui essaie d'acheter les Alouettes, premièrement, ça serait une excellente nouvelle pour les Québécois parce que, comme j'ai déjà mentionné, je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises, messieurs, je vais le dire à vous pour la première fois, chers auditeurs, les Alouettes doivent appartenir à une entreprise québécoise. Parce ouais, que s'il y a quelqu'un qui comprend mieux le marché de Montréal, c'est bel et bien une entreprise de Québec. Du Québec, en fait.
Parce que là, du côté de la CFL, si on trouve pas un acheteur au Québec, on a de l'intérêt pour aller dans les Maritimes. On parle beaucoup de Halifax.
Ouais, puis Halifax fait plusieurs années
puis
là.
Ils sont prêts là, à recevoir une équipe. Donc si on laisse pas ça à Québec, c'est que là que les Alouettes déménagent à Halifax. Là, c'est écrit dans le ciel.
On peut pas se permettre là, une autre crise là, des années 80 où est-ce que les Alouettes ont quitté Montréal. Mais j'ai vraiment hâte de voir là. D'où est-ce que l'argent va venir de où? Comment on va être en mesure de, justement, être en mesure de financer cet achat-là? Et qu'est-ce que Québécois va amener pour rendre les Alouettes autant populaires qu'avant?
Ben, Max parlait tantôt du, t'sais, c'est pas nécessairement les Alouettes la solution. Je sais que pour un puriste du football comme toi, le football canadien, c'est plate, pis c'est ci, pis c'est ça. Mais, à RDS, honnêtement, il y a des très bonnes cotes d'écoute quand c'est les Alouettes qui jouent.
Ouais, mais c'est
les gens écoutent les Alouettes, et on est intéressé par ça.
Mais c'est
et je crois, on l'a vu dans les commentaires, on a vu le premier commentaire que Émile nous a lu durant la pause, c'est ça va être difficile de remplacer Pierre Vercheval et
David
Arsenault. Et puis Mathieu Proulx, Bruno.
Ouais, mais eux vont rester avec la NFL. Mais c'est
mais Mathieu Proulx fait aussi la
ouais, non, mais l'analyse. Ils font les deux. Toutes les analyses football font la NFL et la LCF.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Mathieu Proulx est analyste de la CFL. Donc, c'est les deux qui décrit le match, Pierre Vercheval et David Arsenault. Mais c'est Mathieu Proulx, Bruno Apple et Didier Orméjus et même Danny Desriveaux qui font l'analyse du match. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ça va être difficile de remplacer cette gang-là qui sont avec les Alouettes depuis pratiquement toujours. Puis j'ai hâte de voir,
J'aime bien Charles-Antoine Sinotte. C'est probablement la tête de football de TVA Sport, mais je pense qu'il arrive aucunement à la cheville de
Pierre Vercheval. Je suis désolé, mais je les vois avec le football universitaire et je suis désolé. Non, je peux pas dire ça. Vas-y.
Alerte transaction dans la Ligue nationale de hockey. Jacob Vrana prend le chemin de Saint-Louis en retour d'un choix de 7e ronde en 2025 et Dylan McLaughlin.
Ah, c'est tellement décevant. Je veux plus aucune alerte transaction.
Non, mais Vrana, c'est un bon joueur, juste que Détroit, ils l'ont détruit.
Non, c'est pas une question de la transaction. Moi, je veux que le Canadien transige. On peut tuer, s'il
te plaît. Mais je te l'ai dit, Kent écoute l'allongé. Puis après ça, il va écouter toute la grillerie de Chiz. Après
Kent,
ça, il va se mettre ses
soit
transactions.
Prêt, hein, soit prêt à partir de 9h30. Là, ça commence, il reste 15 minutes.
Moi, je souhaite que cette transaction, je reviens aux Alouettes, messieurs, là, mais je souhaite vraiment que Québécois soit en mesure d'avoir
un accord. Ah, ben oui, parce que ça serait une entreprise québécoise qui aurait. Puis tu sais, ça veut pas nécessairement dire, tu sais, si on ferme TVA Sport parce qu'on se dit c'est pas un moyen de sortir de l'eau, c'est tout simplement, tu sais, on n'a pas les Nordiques, puis aussi ça serait un moyen pour Québécois de faire de l'argent, donc ce qui est excellent, je crois.
Pensez-vous que ça serait une situation comme les Nordiques, messieurs? Un petit peu une façon de dire, je suis pas capable d'avoir les Nordiques, je vais me retourner vers la LCF, parce que c'est une promesse que Québécois avait fait, en fait, d'essayer d'avoir les Nordiques. Malheureusement, on se rend compte que ça sera. C'est quasi impossible, en fait, mais j'ai vraiment hâte de voir, honnêtement, s'il va être en mesure de réussir
un deal. Mais tu sais, peut-être que ça va. moi, ça me surprendrait pas que ce soit juste parce que ben ils veulent sauver les Alouettes. Donc ils vont acheter les Alouettes, puis ça va rester à RDS, puis ben TVA Sport va tout simplement, tu sais, avant que ça se fasse, ça va prendre un bon bout de temps, puis TVA Sport va probablement crouler malheureusement. Là, écoutez, ça ressemble pas mal à ça. Écoutez les gars, on va faire ça rapidement. On va parler de notre segment insolite qu'on fait à chaque semaine. Donc chacun des gars, on a les trois une nouvelle insolite qu'on a trouvé excessivement cocasse durant la semaine. Donc qui veut commencer? Charles, Émile?
J'ai commencé moi la semaine passée, je vous laisse.
Je peux y aller. On se rappelle tous, messieurs, on s'imagine tous là les trois grandes pyramides en Égypte, les trois grandes pyramides de Gizeh. Et malgré que ça fait plusieurs années, en fait ça fait des milliers d'années que ça existe, ça continue de nous fasciner. On est toujours fasciné par qu'est-ce que les Égyptiens et les pharaons étaient en mesure de construire avec les moyens de l'époque, et on se demande même si les extraterrestres ont eu leur mot à dire. Ce n'est pas ça le but de ma chronique aujourd'hui, mais c'est bien de parler d'une nouvelle découverte scientifique dans la plus grande des trois pyramides, où est-ce qu'on aurait découvert un tunnel, un corridor de 9 mètres proche de l'entrée de celle-ci. Là, vous allez me dire, c'est pourquoi tu me parles de ça? T'sais? Pourquoi on parle d'un corridor? C'est juste
pourquoi tu me parles d'un corridor, Charles?
C'est justement pour ça. C'est parce que c'est un avancé très important dans un projet qui date depuis 2015. Ça fait depuis 2015 qu'un groupe de chercheurs allemands, français et canadiens et japonais, pardon, qui tentent par tous les moyens d'aller découvrir les différentes chambres du pharaon. Et ce corridor-là est peut-être la clé vers ces chambres-là. Donc, c'est un avancé de plus sur l'histoire égyptienne et surtout comprendre davantage qu'est-ce qui se passait là, il y a 15 000, il y a plusieurs années passées. Là. Les experts se permettent que cette découverte-là nous permettrait de comprendre davantage la construction des pyramides. Donc, comprendre comment ils étaient en mesure de construire ça et qu'après autant d'années, ça soit aussi solide. Parce qu'on sait que la pyramide à Sainte-Foy, c'est pas la clé d'architecture.
J'ai adoré ça. Merci, Charles. Écoute, c'est la meilleure conclusion que j'ai vue de ma vie. Elton John, les Spice Girls, Ed Sheeran, Adele, Harry Styles et Robbie Williams. Savez-vous qu'est-ce que ces personnes-là ont en commun, les garçons?
À part chanter?
Aucune idée. Émile, toi, tu le sais, hein?
Mais oui, je sais.
Tous ces artistes ont refusé de monter sur scène le 6 mai prochain au Château Windsor pour le couronnement du roi Charles est ici présent, du roi d'Angleterre, Charles III. Ils ont tous refusé catégoriquement pour chanter au couronnement d'un roi.
Ça, c'est spécial, hein? C'est la monarchie, tu sais. Plusieurs personnes basent leur vie sur qu'est-ce qui se passe.
Puis surtout, les Britanniques, tu sais, Harry Styles, tu sais, c'est. En tout cas, je suis pas sûr de toutes leurs. Mais tu sais, il y en a une couple là-dedans. Où, est-ce que c'est toutes des British?
Ed Sheeran est britannique. Harry Styles est britannique.
Adele, par exemple, est pas.
Oui,
Adele est britannique.
Adele est britannique. Elton John est presque britannique.
Les Spice Girls aussi.
En fait, il est même chevalier, si
je me rappelle. Oui, c'est sûr qu'il aurait demandé juste des Britanniques. Donc. En fait, tous ces personnes-là, tous ces chanteurs ont refusé, tous ces chanteurs-là britanniques, puis comme tu le dis, il y en a qui dévouent leur vie. C'est de voir à quel point la monarchie en Angleterre est en train de perdre du prestige, je crois, selon moi. Parce que, recul de 10 ans, n'importe qui aurait accepté d'aller chanter sur scène au Château Windsor pour le couronnement de quelqu'un. Là. N'importe qui.
Même moi, j'aurais accepté d'aller chanter. Je sais pas chanter. Là.
Mais je pense que c'est à cause des. On a vu la reine est décédée. Puis ça a comme. Chez les gens, je pense que ça a fait renaître l'amour pour Lady Di, pour même pour la reine là, qui est morte. On se dit, la monarchie sera plus jamais la même sans Elisabeth II. Puis là, avec Charles, on parle beaucoup de complot, que ce serait lui. Ben, je m'embarque pas là-dedans, là, mais que ce serait lui qui aurait organisé l'accident de voiture de Lady Di et tout ça.
Mais
donc, je pense que les gens ont ça sur le cœur aussi.
Sur des faits, là. Il a sorti. En tout cas, je sais pas trop de quoi je parle, mais tu sais, je l'ai entendu d'une oreille, là. En fait, je sais pas de quoi je parle, je devrais pas en parler, mais en gros, là, Harry et Meghan ont une maison ou un château, oui. Je me souviens plus, en Écosse, genre.
Ils ont perdu les droits de cette propriété-là.
C'est ça, puis il l'a donné à son frère, puis là, tu sais, c'est d'enlever la maison à ton fils.
Mais je veux dire, tu sais,
ça passe pas.
Meghan et Harry ont vraiment renié la monarchie là. Ils sont allés, ils ont fait des shows, ils ont parlé. Tu sais, il y a eu une entrevue avec Ellen DeGeneres il y a quelques mois qui est venu faire frétiller le poil sur les bras de la reine, honnêtement, là, cette entrevue-là. Là. Tu sais, je veux dire, ils ont sorti des scoops, comme on peut dire, qui ont pas fait tant plaisir à la monarchie. Donc, tu sais, je comprends que on veut enlever, si on leur enlève leur maison directement, lorsqu'on connaît un petit peu comment la monarchie fonctionne, parce que Charles III est très, très pro-tradition.
Oui, très conservateur.
T'sais, on le voit dans les différents défilés avec les forces armées, on voit les différentes rencontres qu'il fait, il connaît tout. Il est très, très, très pro-tradition.
Ouais. En tout cas, c'est tout pour ma nouvelle insolite. Toi, Émile, c'est quoi ta nouvelle insolite?
Mais je pense que j'ai creusé en masse, puis j'ai trouvé... dans le fond, c'est... En parlant de creuser, c'est un livreur de 26 ans au Pérou. On a retrouvé une momie dans son sac de transport. Là. Vous savez, quand les livreurs...
Fait qu'en gros, là, tu te commandes
un sac
Uber
isotherme.
Tu te commandes du Uber Eats, puis finalement, le livreur te livre une momie, c'est ça?
Non, il livre pas une momie. Il garde la momie dans son sac. Arc. Là, ça a été découvert. Dans le fond, il a expliqué que cette momie-là est préservée dans sa famille depuis plus de 30 ans. Ils ont même donné un nom à la momie. Elle s'appellerait Juanita. Eux, ils ont donné ce nom-là.
J'ai comme des frissons dans le dos. Là.
Puis la police a mis l'homme sous en état d'arrestation. Donc, on va le traîner de momie. Puis ce serait son père qui l'aurait volé à un policier qui lui devait de l'argent. Donc lui, il s'est dit, tu me dois de l'argent, mais je vais prendre une momie de patrimoine national, puis tout ça. La momie daterait de 600 à 800 ans, puis ce serait un adulte mâle qui aurait été momifié comme ça.
C'est quand même une drôle de passion, hein. Petite passion momie.
Tu traînes de momie dans ton sac.
Il y a eu 4 films qui ont démontré que, tu sais, avoir des petits embargos avec les momies, c'était pas bon signe. On se rappelle des 3 films de Brendan Fraser et du dernier film avec Tom Cruise. Qui nous ont démontré que justement, hein, jouer avec les momies, c'est pas si nice que ça. Là.
Effectivement.
Bref,
c'est pas un cinéphile, c'est ça que t'es en train de dire.
Exact.
Hey, il est présentement 9h21. On se laisse pour une courte pause sur les ondes de l'allongée. On se retrouve après la pause pour un petit segment sport avec les gars pour terminer l'émission. Et je tiens à souligner la fin de la semaine de relâche à tous les étudiants. Donc, je veux vous souhaiter une bonne semaine de relâche à tout le monde. On se retrouve après la pause.
Des nouveautés faites au Québec. Ici, on a des tonnes de copies. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Quand tu me parles des old days, peek-a-boo, c'est un malaise always. Oh, peek-a-boo, peek-a-boo, on n'est pas des âmes sœurs, mais t'es comme moi, mais t'es comme moi.
et l'allonger sur les ondes de Chiz 94.3.
9h25, vous écoutez l'allongé sur les ondes de Chiz 94.3 avec Max, Charles et Émile. Les gars, segment sport pour la fin de l'émission. Nos sportifs, vous avez attendu probablement à ce segment-là et vous allez être servis. On parle de la date limite des transactions, de la F1 qui commence en fin de semaine. Charles, les deux, on suit pas mal la F1. Excité pour le Grand Prix de Bahreïn?
Oui, ça va être très excellent. Très excitant, honnêtement, je veux dire.
La chose que j'ai le plus hâte de voir, puis dis-moi si t'es d'accord avec moi, il y a deux choses. La première, c'est la bataille à trois entre Mercedes, Ferrari, Red Bull.
Je crois qu'on va peut-être rajouter Aston Martin dans l'équation aussi.
Et j'ai hâte de voir la performance d'Aston Martin.
J'ai hâte de voir. C'est sûr que on va parler de Lance Stroll, notre cher pilote canadien, qui n'a pas pu, participer aux essais.
Il va être là,
aux essais hivernaux.
Exact,
qui a pas pu participer aux essais hivernaux puisqu'il y a eu un accident de bicyclette et il s'est fracturé les poignets. Il va courir avec des vis de métal dans les poignets. J'ai vraiment hâte de voir sa performance. Nouveau véhicule qui est complètement changé. J'ai excessivement hâte de voir comment ils vont répondre. Même chose pour Fernando Alonso. Arrive avec, pour une fois, avec une excellente attitude aussi en saison. Et je crois que la Aston Martin est très fiable. Sinon, les qualifications demain à 10h, excessivement hâte aussi de voir qui va sortir avec la pole position. On se rappellera tous que l'an dernier, c'était Charles Leclerc qui avait obtenu la première pole position de l'année, en espérant que la Scuderia sera en mesure de répéter l'exploit. Avec
et de faire
nouveau,
moins d'erreurs cette année.
Et surtout d'avoir un nouveau directeur d'équipe.
Pour le grand bonheur de Maxime, parce que...
Ouais, ouais, merci ouais, pour mon grand bonheur. Sinon, Émile, côté de la Ligue nationale, date limite des transactions, résumé des transactions. Ma question pour toi, là, puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que cette année, ça a plus bougé. Je sais pas si
ouais,
c'est
mais il y avait plus de gros noms sur le marché. Il y a toujours des gros noms qui sont sur le marché des transactions.
Ouais.
Puis cette année particulièrement... Puis, c'est ça, ils ont tous été échangés.
Le gros nom qui reste, c'est genre John Klingberg à
C'est Brock Besser à Vancouver.
Ah, oui, aussi.
Le plus gros nom. Ben, les trois plus gros noms, on parle de James Van Riemsdyk, Brock
Drouin.
Besser, Joel Edmondson,
Jonathan Drouin.
John Klingberg, oui, Jonathan Drouin.
Jonathan Drouin, Mike Hoffman.
Ouais, c'est ça.
Yevgeny. Ah oh, non, c'est vrai, il est parti.
c'est très intéressant. T'sais, on suit ça en ce moment. Puis je vais te prendre la balle au bon par rapport à ça. Je vois les statistiques de Connor McDavid en ce moment. 118 points, 52 buts. Il est à son cinquième match d'affilée.
Avec au moins deux buts.
Avec le record appartient à Joe Malone.
Avec 100.
Ça fait 50 égale Mario Lemieux, parce que t'as fait quelque chose de bon dans ta carrière.
Mais je veux dire,
j'imagine que t'es popé.
Ce week-end va être en mesure d'égaler le record à Joe Malone, qui est 6 matchs en ligne avec au moins deux buts. Pensez-vous, messieurs, que Connor McDavid, le magnifique, le fabuleux, l'homme
Connor
de la nation,
McJesus.
Pensez-vous qu'il va être en mesure de battre ou d'égaler?
Ça dépend des équipes.
Ce soir, les Oilers jouent contre les Jets à 9h à Edmonton. Donc,
non,
ça me surprendrait pas. Que...
Je n'y crois pas.
Contre Connor et les Bucks, c'est vrai que ça peut être difficile.
Ça peut être difficile.
Mais je pense que, je veux dire, il passe à travers tout le monde.
Ça peut être possible, mais je crois qu'il va marquer un but.
3-2, fin de période. Hellebuck n'est plus dans le filet pour les Jets. Je peux vous garantir que McDavid est sur la
glace. Surtout si McDavid a déjà marqué dans le match.
Je peux vous garantir que McDavid est sur la patinoire.
Ouais. Sinon, les joueurs à surveiller du côté du Canadien qui pourraient être échangés rapidement, Emile, jusqu'à la fin de la journée.
Joel Edmondson, Mike Hoffman, Christian Vorak, Jonathan Drouin.
On parle peut-être de Jake Allen.
Jake Allen, même Samuel Montembeau qui a été lié aux Maple Leafs de Toronto. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'il donne parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment il sortirait d'une situation. Tu peux pas avoir trois gardiens dans ce club-là, ils ont tellement pas de cap salarial qu'à un moment donné, vers la fin de la saison, il va falloir qu'ils jouent à 11 attaquants et 5 défenseurs. Donc, si tu ajoutes un autre gardien de but au mix, à Matt Murray et à Ilya Samsonov, je pense que tu tires un petit peu dans le pied.
Je crois que Samsonov risque peut-être d'être bougé.
Ah non, je pense pas. Non, il fait un excellent travail.
C'est Samsonov qui va être le premier et Matt Murray le deuxième.
Il y a aussi, on n'ira pas chercher les contrats inutiles parce qu'il y a une limite de 50 contrats pour les équipes de la Ligue nationale et puis les Leafs ont toujours pas mis sous contrat leur meilleur espoir, Matthew Nyes. Donc, ça va être à surveiller.
Donc, c'est tout pour la période de transaction. Émile, en 15 secondes résumer des dernières transactions qui s'est passées ce matin
qu'on a dit dans l'émission. C'est, on a les détails finalement pour l'échange de Nick Bonino. Les Pingouins envoient un choix de 7e ronde en 2023 et un choix de 5e ronde en 2023 aux Sharks. Et puis comme j'ai mentionné, les Red Wings de Détroit envoient Jacob Vrana à Saint-Louis, un retour de Dylan McLaughlin et un choix de 7e ronde en 2025.
Donc merci d'avoir été avec nous. Il est 9h30. Vous écoutiez l'allongé sur les ondes de Chiz 94.3 avec Max, Charles et Émile. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Ciao tout le monde.
La semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz.